Radio Saint-Ferréol et Erdiwa présentent Il est une vallée, une série non achevée de ce qui soutient la vie sur notre territoire.
Parole d'ici,
de là.
Quand tu vas t'intéresser aux choses, elles vont finir par te parler.
Quel tourisme en Biovallée ? Une réalisation Erdiwa, la radio du Diwa. Épisode 1, le tourisme durable, par qui et comment sur le territoire. Le tourisme durable, qu'est-ce que c'est ? Il y a bien une définition que donne l'Organisation mondiale du tourisme. Un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels de l'environnement et des communautés d'accueil.
Bivouaquer, trouver un camping.
Il vise donc l'équilibre entre tout ça. Vaste programme, est-ce bien possible d'y croire ? Il y a tellement de raccords à faire avec d'autres problématiques, les déchets, l'eau des rivières.
Partir à l'aventure.
Se nourrir, de qui, de quoi ?
Tailler la route.
Les producteurs locaux, les commerces en tout genre. Faire des centres-villes des lieux accueillants.
Louer une chambre.
L'accueil, faire de l'accueil. Mais pour vivre quoi ?
Dormir à la belle.
Et la circulation, celle des moteurs, des vélos ou celle des rêveurs, des promeneurs. On peut aussi noter pas mal de paradoxes dans tout ça.
Partir, revenir ou bien rester.
Un jour de marché, un gars de chez nous a fait la rencontre de Renata, une jeune femme de nationalité grecque, tout juste arrivée sur le territoire de la Drôme. Sur la table d'un café, il avait laissé son enregistreur tourner. C'est comme ça que cette histoire a commencé. Épisode 1. Le tourisme durable, qu'est-ce que c'est ? Par qui et comment sur le territoire ? Une réalisation Erdiwa, la radio du Diwa.
Planter sa tente.
Coucou, ça va ?
Oh, Renata, alors ? Ça fait plaisir de te voir.
Ouais, pour moi aussi. Comment tu vas ? Dis-moi.
Là, dernièrement, j'ai un sujet à traiter. Le tourisme durable. Ouais. Mais au début, quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, oh là là, foutaise. Puis bon, finalement, quand j'ai commencé à y réfléchir, et puis surtout à aller rencontrer des gens, là, celles et ceux qui travaillent sur les questions de tourisme, sur le Vercors et puis dans la vallée de la Drôme, je me suis rendu compte que c'était intéressant comme sujet. C'est vrai.
Ah ouais, à la fin, au début, on était tous touristes, non ?
Toi d'ailleurs, t'es une touriste, toi.
Ah oui, moi c'est sûr que je suis un touriste là, peut-être, ou pas. Je me pose la question à moi-même.
Ah, vous parlez pas le français, vous venez d'où, pardon ?
Allemagne. De la Cologne. Okay. De Cologne.
D'accord, vous êtes en voyage ici.
Oui.
Et alors, comment vous le vivez, ce moment de voyage dans le Diwa ?
Oh, c'est merveilleux.
Qu'est-ce qu'il y a de merveilleux, pardon ?
Le paysage, les montagnes et la lumière. Oui, le vent.
Comment vous circulez-vous dans le Diwa pour aller visiter les endroits ?
Avec la voiture.
Et d'une certaine manière, vous le vivez comment ?
Je pense que voyager avec le vélo, c'est un peu dangereux dans le Diwa. Et avec la voiture, c'est confortable. Je sais que ce n'est pas si écologique, mais c'est confortable. Et en vélo, à vélo, je pense que c'est très dangereux.
En Allemagne, vous vous sentez en sécurité quand vous êtes à vélo?
Oui.
Merci. Bonjour.
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 Alors, c'est ici la Sauvagine.
La Sauvagine, oui, dans ce bel hameau.
De Grimone.
Eh oui, de Grimone. C'est magnifique.
Ça, oui, voilà. C'est très, très fleuri. C'est très naturel. Je suis Sandrine Morlot, je suis une ancienne infirmière, enfin je me considère toujours comme infirmière d'ailleurs.
Eh bien, Christophe Regnault, donc de Saône-et-Loire exactement. Donc moi je travaillais dans la fonction publique et on avait ce projet de reprendre un gîte, mais justement on voulait reprendre un gîte avec une idée assez précise, on voulait être dans un lieu où l'écologie, l'alternative économique était déjà bien implantée et que pour nous, ce ne soit plus un combat, mais plutôt quelque chose qui coule de source. D'où notre choix de la Drôme.
Quand on est arrivé ici, on a découvert des gens qui parlaient le même langage que nous, qui étaient dans une action très écologique et le fait de discuter avec eux, ça nous a nourri aussi et on s'est dit que voilà, on était vraiment au bon endroit à ce niveau-là, oui.
Comment vous avez commencer à réfléchir à votre projet d'accueil dans ce gîte avant même de commencer?
En fait, on était dans la continuité de ce qu'il y avait avant. Le gîte accueillait déjà des groupes. Il accueillait des stages, beaucoup de stages de yoga notamment. Il accueillait aussi des individuels pour de la randonnée, pour de l'itinérance aussi. Et le gîte faisait déjà de la restauration, demi-pension, pension complète. Donc, naturellement, on s'est laissé porter par le même principe de fonctionnement.
Dans le sens que notre projet de reprise, donc effectivement, on a pris un fonctionnement qui existait, mais on a apporté toutes nos valeurs dedans. Alors, nos valeurs, c'est lesquelles? C'est une idée de gîte dans un projet de zéro déchet. C'est une idée de gîte qu'avec une alimentation qui n'est pas issue de l'agro-industrie, un choix de répartir nos achats uniquement sur de la production de petits producteurs et d'être en direct sur les achats. C'est-à-dire que même le café, l'huile d'olive, des choses comme ça, on travaille avec des petites coopératives pour ne pas avoir d'intermédiaires. Là, nous, quand on ravitaille le gîte, c'est 6 à 7 heures de travail. Parce qu'il faut aller voir tous nos producteurs avec qui on travaille, ou les magasins de producteurs, ainsi de suite. Donc voilà, ça, c'était aussi une reprise de l'existant, mais avec une volonté d'aller, ce qu'on pourra appeler, vers un tourisme alternatif, un accueil alternatif, avec des choix écologiques.
Ici, c'est l'espace d'accueil, hein, avec la salle restauration.
Ouais, des grandes tables.
Des grandes tables, oui. Alors, on adore mettre les tables en long et puis avoir vraiment le groupe qui mange tout ensemble, même des gens qui ne se connaissent pas. Et ça donne une ambiance assez extraordinaire.
Ça, c'est la cuisine. Alors, ça, c'est l'espace cuisson. Voilà, puis on a un labo de confection et là c'est l'espace cuisson. Et donc du coup comme ça les gens profitent, vivent la cuisson comme partie de la cuisine et des odeurs. Et ça fait partie de l'accueil dont on a longuement parlé. Voilà. Un accueil en odeur.
Alors, si on passe par là...
J'aurais bien voulu... Excusez-moi. Je peux voir le labo comme il est ?
Oui, bien sûr. Bien sûr.
Christophe, alors d'où vous vient cet engagement, j'allais dire cette énergie ?
Eh ben moi, depuis tout jeune, je suis tombé un peu comme Obélix dans la potion magique du militantisme. Et donc, en fait, on va dire que c'était mon co-éducateur et j'ai grandi avec. Alors, c'est passé par l'éducation populaire, les centres aérés, les centres de loisirs, les centres sociaux, les maisons de jeunes. C'était dans le monde syndical, c'était dans les associations inter-comités d'entreprise, c'était dans l'écologie, c'était un peu dans la politique. Voilà. À chaque coup, en trouvant un maillage, des liens. Et puis, donc, on avait envie d'agir, de faire un lieu... qui soit partageur de ces valeurs, qui incite les gens à voir que si on arrive à être en zéro déchet pour 25 personnes, eux tout seuls, ils doivent essayer de le faire chez eux. Donc notre image ici, notre volonté, c'est vraiment d'amener les gens à réfléchir, à les interpeller. Et puis, s'ils partent en disant, je vais essayer de supprimer ça, je vais essayer de consommer autrement, ça nous rend heureux.
Les moments où vous accueillez ces visiteurs, ces visiteuses, sont réellement des moments de rencontre, peut-être même intimes.
Mais ça, c'est ce qui nous tient, en fait. Hein. Ce sont les rencontres avec des gens, mais quelquefois extraordinaires, et c'est ce qui nous porte. Et c'est vrai que quand on arrive à faire passer notre message et que les gens nous disent c'est vrai, vous avez raison, je vais peut-être tester ça, je vais peut-être faire ça comme ça, je vais... Et ça, c'est vraiment super parce qu'on se dit oui, on a notre petit rôle.
Comment vous faites-vous de l'accueil finalement ?
Je sais pas. Je fais comme je suis naturellement. Je n'ai pas de recette magique. D'abord, je suis heureuse que les gens soient là. Et puis, les choses se font tout naturellement. En fait, ce que retiennent les gens, c'est qu'on a l'air d'être heureux. Donc, on communique ça.
Moi, tourisme durable et apprenant, ce sont les deux versants d'une même pièce qui s'alimentent l'une l'autre et qui visent à répondre aussi aux enjeux de la transition sur le territoire sur lequel nous nous trouvons. Et effectivement, dans cette optique, l'association joue son rôle d'accompagner les acteurs locaux et en l'occurrence là, des acteurs qui sont des éco-hébergeurs qui aujourd'hui représentent 18 structures d'hébergement sur le territoire que sont gîtes, chambres d'hôtes, hôtellerie plein air et également des hébergements insolites.
Andrea Mayotte, chargée de mission tourisme durable et apprenant pour l'association Biovallée.
Qu'est-ce que ça veut dire d'être un hébergeur sur le territoire, d'être engagé pour la transition ? Est-ce que ça veut dire de s'engager pour avoir un bâtiment éco-construit ? Est-ce que c'est être particulièrement dans la sensibilisation sur les questions de biodiversité, de rapport au vivant ? D'ouverture du regard des visiteurs sur la nature. Chaque éco-hébergeur, finalement, a une spécificité, une façon d'être, une façon de vouloir faire vivre ce territoire d'un point de vue de la transition et de transmettre ces éléments sur la transition. Et du coup, l'échange de pratiques entre ces pairs-là est extrêmement précieuse.
Donc moi c'est Jody Arnaud, j'ai 35 ans.
Moi c'est Oriane Arnaud, je suis la femme de Jody. Donc j'ai commencé à travailler au camping en 2006 Et avec Jody, on a créé la société en 2010 pour reprendre la suite de ses parents et de ses grands-parents.
Oriane et Jody, camping La Clairette.
Aller à vélo, faire le tour de la terre.
Un camping familial, Jody, qu'est-ce que c'est ?
Un camping familial, c'est un camping qui attire des familles d'un côté, mais c'est aussi une ambiance de famille, où on va retrouver des voisins qui sont toujours les mêmes d'une année sur l'autre, qui deviennent des amis. Et en fait, c'est toute cette ambiance-là qui fait que c'est un camping familial. On a beaucoup de vieux clients qui viennent depuis très longtemps, des fois depuis plusieurs générations. Et c'est ça qui fait l'ambiance particulière chez nous, qui est aussi partagée par pas mal de nos collègues, je le sais. Mais c'est vrai que d'être un vieux camping qui aura 70 ans l'année prochaine, ça joue beaucoup là-dessus. On a des clients qui viennent, on a un client qui venait quand il est venu la première fois, il avait 15 ans, il en a plus de 75 aujourd'hui, donc c'est des clients fidèles et c'est des clients qui amènent une certaine âme à ce camping. Et ça c'est un exemple, mais il y en a des dizaines qui viennent depuis 20, 30, 40 ans. Et les enfants qui viennent, et du coup ils se retrouvent des fois, une même famille occupe 5 ou 6 emplacements dans le camping à une période donnée, parce que y a les cousins, les oncles, les frères, les sœurs, les petits-enfants, et c'est ça qui fait cette ambiance familiale du camping en fait. Comme vous pouvez le voir en fait dans le camping, il n'y a pas de haie pour séparer les emplacements. Nous les clients, ils ne sont pas cloisonnés. Partager des moments avec son voisin, c'est un peu une perte d'intimité, mais c'est ça aussi qui fait l'essence même du camping, c'est que les gens, ils dorment, ils vivent, ils mangent à côté de leurs voisins, à côté de leurs amis quand ils viennent depuis longtemps. Et ça, ça participe vraiment à la cohésion entre les gens et à la rencontre et tout ça. Pour nous, si tout le monde est cloisonné dans un petit espace avec des haies, autant aller à l'hôtel en fait. Nous, c'est historiquement, ça a toujours été comme ça. Et on n'a que des bons retours par rapport à ça, donc... Voilà, c'est une tradition qui perdure.
Qu'est-ce que les visiteurs, les visiteuses, enfin les touristes, trouvent dans ce camping ?
Alors, ça peut paraître assez paradoxal parce qu'on n'a pas beaucoup d'aménagements. On est donc un camping une étoile. On a un aménagement donc simplement des sanitaires. On a mis 2 tentes lodges depuis 2016 seulement. Et donc le nouveau bâtiment d'accueil qu'on est en train de construire qui offrera un petit magasin en supplément. Après on a une clientèle qui est très familiale, donc on a beaucoup de couples avec des enfants, 2, 3 voire 4 qui sont venus chercher, pas de piscine parce qu'on n'en a pas, mais un milieu naturel où les enfants peuvent jouer, construire et créer leur jeu, leur propre jeu avec la rivière, avec des bâtons, des cabanes, etc. Et on a une clientèle qui aime rester sur le camping. Alors que du coup, il n'y a pas beaucoup d'aménagements, mais ils aiment la tranquillité, le calme, la verdure et le frais aussi, que la fraîcheur que la rivière propose quand il fait assez chaud, parce qu'on est en fond de vallée avec une rivière qui coule et ça crée un environnement un peu plus frais et humide.
Et voilà.
Donc nous voilà arrivés au bord de la rivière, on a fait à peu près entre 50 et 70 mètres pour venir jusque là. Et là, on n'a vraiment plus aucun bruit, surtout le bruit de la route qu'on évoquait tout à l'heure, on ne l'entend plus. Là, on n'a vraiment que le bruit de l'eau. C'est super agréable, c'est relaxant. Et on a plein de gens qui viennent là juste pour poser un transat et lire, en fait. Ils n'ont pas besoin de plus que ça. Ils viennent juste profiter de ce qu'ils n'ont pas chez eux, en fait. Un espace naturel assez sauvage et assez agréable à vivre, en fait.
Il y a des clients néerlandais qui arrivent, des néerlandais, des belges qui arrivent et qui nous disent « j'arrive à la maison » quand ils arrivent chez nous. Et la grand-mère à Jody, qui était donc créatrice du camping, et on a des vieux clients qui nous disent « c'était ma mère de France ». Et donc ça, c'est un beau cadeau, je trouve.
Du coup, pour nous, le tourisme durable, c'est un peu naturel parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que on a une entreprise qui s'inscrit dans l'histoire et qui se transmet de génération en génération, que ce soit de notre côté en tant que propriétaire et de nos clients. Et pour que ça perdure, il faut quand même changer nos habitudes de consommation. Et pour nous, c'était important que notre entreprise s'inscrive dans ce geste-là. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas demander aux autres, à l'État, aux autres entreprises de changer le monde si nous, on ne le change pas. Donc, on commence par nous et après, on verra les autres, quoi. Ça nous semblait tellement important de ne pas faire de notre entreprise quelque chose qui détruirait ce qui est si beau dans notre cher territoire que ça nous semblait évident de devoir mettre en œuvre des pratiques plus vertueuses.
Eh oui, ça donne envie de venir en vacances.
C'est un peu l'idée qu'on ait envie de passer des vacances, mais ça veut dire aussi que... En fait, on a quand même un très beau département, une très belle vallée. Et mine de rien, on a plein de gens qui viennent de pas si loin. On a des gens qui viennent de Lyon, de Grenoble pour les grandes villes, mais on a aussi des gens qui viennent de Valence, même de Cré, parce qu'ils habitent en appartement. Et juste là, à 15 km de chez eux, ils peuvent avoir un petit coin de nature très agréable à vivre, en fait. Et c'est vrai que ça fait une différence par rapport à vivre en ville.
Tu veux que je commande un café?
Oui, bien sûr. Moi, un double espresso, comme d'hab.
Un café. Attends, je vais demander.
Ouais.
Excusez-moi. Pardon?
Oui, je vous écoute.
On aurait voulu deux cafés, s'il vous plaît. Tu m'as dit quoi, Renata?
Double espresso. Ah, un peu du lait aussi.
Double espresso avec un peu de lait.
Très bien, ça marche.
C'est dans les détails que se fait la rencontre avec un endroit, avec un lieu comme la Grèce, par exemple.
Ouais. Mais ça, c'est partout, je crois. Même pour moi, maintenant que je suis venue ici, à un moment donné, je me pose la question, je suis quoi? Je suis un passager? Je suis un voyageur? Je suis un touriste? Je suis un habitant de Die? Je suis quoi? C'est quoi la différence entre un touriste et un passager et un voyageur? C'est quoi cette différence-là?
Quand on est un professionnel du tourisme, il faut être très compétent techniquement.
Emmanuel Bosque, chargé de mission diversification touristique Parc naturel régional du Vercors.
Je veux dire, voilà, je suis un hébergeur, voilà, mon site internet doit être bien fait, je dois avoir une forme de tarification qui soit intelligente, voilà, des adaptations. C'est-à-dire, j'ai un ensemble de ressources techniques qu'il faut que je maîtrise absolument. Il y a un côté technique dans l'accueil, c'est important. Mais il y a aussi une autre dimension. Je veux dire, la technique, en fait, ce n'est pas ce qu'on va vendre. Ça permet de faciliter l'accueil, la venue d'une personne, que la personne puisse faire ses choix facilement, qu'elle ait tous les éléments pour faire son choix de venir chez vous. Une fois qu'elle est chez vous, cette personne, c'est là que les choses intéressantes commencent. C'est-à-dire que vous allez être un interface entre votre visiteur et votre territoire. Et c'est-à-dire qu'au-delà d'une relation financière et technique, c'est-à-dire votre chambre doit être bien faite, doit être propre, voilà, le repas que vous préparez, ben, il est conforme au rêve que vous avez vendu, entre guillemets, si je puis dire. Voilà, ça c'est des côtés techniques, mais derrière, en fait, on fait ça pourquoi? C'est-à-dire, et donc quand on est un acteur du tourisme, mais même je vais plus loin, qu'on est un artisan, qu'on est un épicier, on est chacun un peu des ambassadeurs ici de notre territoire. Et c'est là que commence le travail intéressant, c'est-à-dire comment on peut partager notre connaissance un peu intime, un peu fine de notre territoire avec des gens qui viennent nous voir ici. Voilà. Et selon qui on est, avec la personnalité qu'on a, parce que aussi l'accueil, je trouve, faut pas qu'il soit cloisonné, codifié. Je trouve que c'est important qu'on assume les personnalités qu'on a. Des fois, on va dire avec de la retenue, des fois plus exubérante, c'est pas grave, ça c'est le style de l'accueil. Mais c'est qu'est-ce qu'on va faire passer, quel mot on va faire passer, qu'est-ce qu'on a envie de partager avec la personne qui vient ici. Voilà, voilà, c'est un coin de soleil, c'est un bout de forêt, c'est de renvoyer la personne chez un prestataire qui fait des très belles choses. Après, si on va aller sur des choses plus fines, bah tiens, les fameux sentiers artistiques qui sont sur la petite commune de Saint-Julien-en-Vercors, magnifique, pour passer un moment dans la nature, en étant surpris par des œuvres d'art qui sont dans la nature. Voilà, c'est comment, au travers de ma personnalité, bah je donne un petit peu à des gens ici pour qu'ils viennent découvrir. Voilà.
Vous écoutez Le Tourisme Durable, par qui et comment sur le territoire. Une réalisation Erdiwa, la radio du Diwa, la radio du Diwa, la radio du Diwa, la radio du Diwa, la radio du Diwa.
Veux-tu vivre heureux ? Voyage avec deux sacs. Un pour donner, l'autre pour recevoir.
En fait, en parallèle de notre activité, on est aussi membre de la Fédération départementale de l'hôtellerie de plein air, qui rassemble à peu près 60 campings dans le département. Et à ce titre-là, on fait des réunions sur certains thèmes chaque année. Et l'année dernière, on a organisé avec le syndicat mixte de la Rivière Drôme une réunion sur le thème de l'eau, la consommation, les énergies, le niveau qu'il y a dans la rivière. Enfin voilà, on a été accompagné par le SMRD sur ces questions-là pour essayer d'emmener les autres aussi dans cette démarche. C'est-à-dire que ce n'est pas que notre camping, c'est aussi l'activité touristique au global, quoi. Pour nous, l'important, c'est aussi d'avoir du lien avec les autres acteurs touristiques. Je suis notamment secrétaire de l'Office de tourisme Cœur de Drôme. Donc ça permet aussi d'avoir des relations avec les autres prestataires qui ne sont pas nécessairement des campings, qui peuvent être d'autres hébergeurs, mais aussi des activités touristiques, du canoë, de l'escalade, les restaurateurs, enfin c'est au sens large l'Office du tourisme. Donc ça c'est un premier volet, et on est aussi depuis cette année aussi membre des éco-hébergeurs de la Biovallée. Donc c'est aussi une autre communauté qui pour elle est beaucoup plus tournée vers le développement durable et le tourisme durable. Et ça permet de faire des liens entre les différentes communautés, entre les différents acteurs. Et c'est ça qui est important pour nous, parce que même si on avait le meilleur camping du monde pour le développement durable, si tous nos voisins sont pas dans cette démarche, on n'aura rien gagné. Donc pour nous, c'est important aussi. Il y a plein d'autres acteurs touristiques qui ont la même démarche que nous. Et avancer ensemble, ça nous semble important. Parce qu'on peut gagner du temps, piocher du savoir-faire chez les autres, et inversement. Et ensemble, on est plus fort, en fait, plutôt que d'être concurrent ou d'être dans un conflit. On peut plutôt s'accompagner les uns les autres et être tous beaucoup, beaucoup plus forts.
Vous êtes bien là, à l'écoute de « Il est une vallée » sur Erdiwa ou RSF.
Il y a des éco-hébergeurs qui, voilà, parce que impliqués de longue date, engagés sur le territoire, qui aussi vont proposer des sensibilisations, certains des formations, des balades, des choses, des expériences un peu sensorielles qui vont aussi permettre une expérience particulière aux visiteurs sur ce territoire. Et ça, c'est quelque chose. Toute cette expérience, cette transmission et tout ce qui peut exister de pédagogie autour de la transition, c'est quelque chose qui véritablement nous tient à cœur au niveau de l'association Biovallée et au niveau des acteurs qu'on accompagne. Et c'est véritablement quelque chose qu'on souhaite renforcer pour la suite et pour le territoire.
Je suis éco-hébergeur.
Donc éco-hébergeur, c'est recevoir des gens de partout, de l'étranger, mais aussi du territoire français.
Claude Boudel, vice-présidente Biovallée, animatrice référente tourisme durable et apprenant.
Et c'est tout simplement leur expliquer notre façon de faire les choses, c'est-à-dire je suis chambre d'hôte aussi, table d'hôte, c'est-à-dire au niveau alimentation, comment bien se nourrir, leur apprendre à comment bien acheter les bons produits, à consommer, ne pas consommer trop, c'est pas la peine de trop manger, ça ne sert à rien. C'est aussi leur apprendre les économies d'énergie, économies d'électricité, faire attention aux déchets, faire attention à la consommation d'eau. Moi, je leur dis pas ça d'une façon assommante, si vous voulez, c'est dans des discours autour d'un apéritif, tout ça. Et moi, ce qui est important pour moi, c'est que ceux-ci puissent essaimer, c'est-à-dire que ces gens, quand ils repartent chez eux, bien tout simplement, ils deviennent un peu les ambassadeurs de ce tourisme, de ce qu'on pratique en Biovallée, parce qu'on a toujours été un territoire pilote, un territoire école, et j'estime qu'on a transmis beaucoup d'autres valeurs, mais cette valeur du tourisme durable et apprenant, il faut qu'on sorte de la Biovallée pour que ça se passe sur l'ensemble du territoire. Ça se place déjà dans des biodistricts comme le Cilento, où c'est axé sur le tourisme, ils développent énormément le tourisme souhaitable, ils appellent d'ailleurs cela le tourisme souhaitable. On est là, je pense, pour communiquer à tous les gens du territoire qu'on peut visiter plus sereinement, qu'on peut visiter mieux, qu'on peut visiter bien et qu'on peut transmettre nos valeurs.
Et excusez-moi, vous avez des spécialités quand vous faites à manger ?
En été, on accueille beaucoup de stages de yoga, donc c'est principalement de la cuisine végétarienne. Quelquefois, on a des groupes de randonneurs qui peuvent craindre ça, parce que des groupes qui peuvent être assez viandards, et quand on leur parle de cuisine végétarienne, ils ont presque envie de venir avec leur saucisson pour pas crever de faim. Mais en fait, ils se rendent compte au fil de la semaine qu'ils se sont régalés, qu'ils ont mangé à leur faim, et voilà, et qu'on peut manger moins de viande, moins de poisson, et se régaler malgré tout.
Le tourisme durable, est-ce que ça pourrait être ça, une histoire de rencontre, une histoire de sensibilité et quelque chose qui finalement se transmet en conscience?
Alors oui, pas tourisme durable, tourisme responsable ou alternatif, où effectivement c'est comme un potager, il faut le cultiver. C'est pas une évidence, c'est pas inné, et donc il faut effectivement, il faut le transmettre petit à petit, il faut l'entretenir, il faut l'améliorer, et puis il faut le réguler. C'est-à-dire qu'à chaque coup, il faut être vigilant de ne pas vouloir être trop gourmand, parce qu'effectivement, nous, on préfère des groupes de 30, économiquement, c'est beaucoup plus viable. 30 personnes, par contre, ça génère beaucoup plus de bruit, ça génère beaucoup plus de déchets, ça génère une pollution. Voilà, donc c'est une question d'équilibre, de justesse. Et puis, bah oui, c'est comme un potager, ça se cultive, ça s'entretient.
L'accueil, c'est voir arriver les gens de loin, des fois, les reconnaître et se dire « Ah oui, c'est madame et monsieur qui arrivent » et on est un petit peu content de les retrouver parce que quand on retrouve des gens, c'est qu'ils reviennent, c'est qu'ils sont bien chez nous. Et du coup, eux, ils sont un petit peu rassurés parce qu'ils arrivent comme à la maison. Et nous, on est aussi rassurés parce qu'on aime bien ces gens qui viennent et qui reviennent et qui sont un petit peu la base de notre travail. Et après, on a donc... on a leur arrivée, on a leur départ qui des fois est un petit peu chargé d'émotions parce qu'on a des gens qui restent plusieurs semaines, plusieurs mois. Et on a aussi, pendant tout leur séjour, on a pour l'instant seulement la vente de pain, mais ça veut dire que c'est des gens qu'on voit tous les jours, qu'on salue et dont on prend des nouvelles. Et ensuite, on a les nouveaux clients, ceux qu'on ne connaît pas. Alors du coup... On a parfois une petite appréhension sur comment ils vont apprécier notre camping, parce que du coup, on ne les connaît vraiment pas. La plupart du temps, ça se passe très bien, heureusement. Et on a de plus en plus de personnes qui ont vraiment choisi de venir chez nous, qui ont regardé notre site internet, qui ont vu ce qu'on proposait et qui sont venues en conséquence. Par rapport à il y a 10 ou 15 ans, au moment où on a repris, on avait une politique de communication qui était plus global, qui touchait un petit peu tous les clients, et puis au final des clients qui n'étaient pas forcément très contents parce qu'on avait un certain point de vue et qui n'était pas le leur. Et plus en fait on affiche notre démarche et on assume nos choix, et plus on arrive à avoir une clientèle qui est ciblée, qui apprécie ce qu'on fait et qui est là pour ce qu'on fait.
Jamais je n'ai tant pensé, tant existé, tant vécu, tant été moi-même, si j'ose ainsi dire, que dans les voyages que j'ai faits seul ou à pied.
Hier soir, je suis allée au bar boire une bière et il y avait un mec qui m'a dit « Tu viens d'où toi ?» D'Espagne? Non. D'Italie? Non. De Grèce? Ah, Grèce! Socrates! Et où Sirtaki, on va danser du Sirtaki, on va boire du Tsipouro ou du Reiki, on va manger du feta et des trucs comme ça. C'est ça.
Et du coup, qu'est-ce qu'il existe en Grèce qu'on pourrait aller visiter et qui n'apparaissent pas dans des guides touristiques?
Pour moi, Grèce, c'est plutôt la... C'est le sentiment d'affection, affection, on peut dire ça. Mm-hmm. Et on est vraiment très accueillant. Et directement, si tu rencontres quelqu'un, et lui, il va te prendre comme un mec, un copain, un pote. Il est vraiment, on est très proche. Même si on ne parle pas beaucoup, on parle beaucoup, mais tu as compris? Il n'y a pas un étranger. Il y a quand même, mais l'ambiance est plutôt familière. Et ça, tu ne peux pas vraiment le présenter. Tu ne peux pas vraiment trouver les mots pour l'expliquer. Ça même, pour moi, maintenant, c'est difficile à l'expliquer. Mais si tu te trouves en Grèce, tu le sens. Et pour le laisser sentir, il faut rester un peu. C'est pour ça que je trouve que le tourisme, c'est pas vraiment quelque chose de négatif, mais l'industrie du tourisme est négative, c'est ça.
Ça donne envie de voyager, ce que vous dites.
Ça, c'est l'idée de voyager avec notre imaginaire, qui est quand même quelque part un pouvoir important qu'a l'être humain.
Suite au prochain épisode. C'était « Il est une vallée ». Le tourisme durable, par qui et comment sur le territoire. Une réalisation Air Diwa, la radio du Diwa. Une série financée et coproduite par l'association BioVallée. Avec Sandrine et Christophe, Gîte la Sauvagine, Oriane et Jody, Camping la Clairette, Andrea Mayotte et Claude Boudel, Emmanuel Bosque et Renata. Merci à vous tous et toutes de nous avoir confié vos voix. À bientôt. Good.